Bonjour, bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne, les choses de la vie à la sauce France Inter. Il y a quelques mois, nous consacrions une première émission aux abus sexuels sur mineurs, centrée sur la question du déni et de la prescription. Ce matin, nos invités nous délivreront quelques pistes pour surmonter ces traumatismes qui marquent à vie. Comment accompagner au mieux les victimes? Quelle thérapie suivre? Comment se reconstruire une fois devenu adulte? N'oublions pas que selon l'Organisation Mondiale de la Santé, une femme sur cinq et 5 à 10% des hommes ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance et leur adolescence. Nous attendons vos questions et vos témoignages à l'adresse grandbienvousfasse@radiofrance.com, sur notre page Facebook et au standard de France Inter 01 45 24 7000. C'est Chloé et Colline qui attendent vos coups de fil ce matin. Et puis en fin d'émission, vous retrouverez la chronique de Julia Foyce, Il était une fois dans le web.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rébéi.
Je voudrais faire un petit discours. C'est une espèce de discours de vérité. J'ai choisi de l'intituler « Quand père prenait son bain ». Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais papa voulait toujours prendre des bains. Pour ça, il nous emmenait, Linda et moi, d'abord dans son bureau. Alors, il verrouillait la porte, il descendait les persiennes, il allumait une lumière pour faire joli, et puis il enlevait sa chemise et son pantalon, et on devait en faire autant. Après, il nous faisait allonger sur la banquette verte, et il nous violait. Il abusait de nous. Il avait des rapports sexuels avec ses chers petits.
Christian.
Et j'ai pensé que ça... Ce serait bien que je le partage avec ma famille. Ça s'est produit en hiver, en été, en automne, au printemps, le matin, le soir. Et je me suis dit, il faut qu'il sache ça, mon père. Helg est quelqu'un de propre. Et nous sommes tous réunis ici ce soir pour fêter les 60 ans d'Helg. Quel vénard. Alors fêtons-les tous ensemble. Papa, merci pour toutes ces belles années et bon anniversaire.
Un extrait de Festen de Thomas Vinterberg en 1998. Violence sexuelle sur mineurs, comment surmonter le traumatisme? Avec nous ce matin pour répondre à cette question, Muriel Salmona, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, chercheuse et formatrice en psychotraumatologie et victimologie. Vous avez publié chez Duno le livre noir des violences sexuelles. Bonjour Isabelle Aubry.
Bonjour.
Vous êtes présidente fondatrice de l'Association internationale des victimes de l'inceste. Vous avez publié avec le psychiatre Gérard Lopez l'inceste 36 questions-réponses incontournables, également chez Duno. Bonjour Cécile Guéret.
Bonjour.
Vous êtes thérapeute et journaliste à Psychologie Magazine. Cécile Guéret, les répercussions physiques et psychologiques des violences sexuelles sur mineurs à l'âge adulte sont de mieux en mieux connues. Nous verrons au cours de l'émission qu'il est possible de s'en sortir.
Oui, alors effectivement, les répercussions sont de plus en plus connues, les répercussions psychiques d'abord, notamment sur le risque de stress post-traumatique, parce qu'il faut savoir que les victimes ont un risque de développer ce stress de 87% quand elles ont subi des violences sexuelles dans l'enfance et 100% quand il s'agit d'inceste. Donc ça, c'est de plus en plus su. Là, il y a Laurence Rossignol, ministre des Familles, qui vient d'annoncer la mise en place d'un plan interministériel avec notamment une grande campagne de communication pour informer plus les gens sur les risques. Donc on espère que l'information va de plus en plus passer. Mais on se rend compte aussi quand même qu'il y a, nos mécanismes de protection à tous, psychiques, face à l'irreprésentable et à l'insupportable, sont très forts. Et donc il faut en permanence rappeler les faits, rappeler les chiffres, rappeler leur ampleur, rappeler leurs conséquences.
Muriel Salmona, les violences sexuelles sur mineurs possèdent un grand pouvoir de sidération, de colonisation du psychisme des victimes. Ces mécanismes et les conséquences du psychotraumatisme restent selon vous trop souvent sous-estimés?
Oui, elles sont non seulement sous-estimées, mais méconnues, et même méconnues des professions médicales. Donc, on essaye vraiment de faire changer la donne. Je voudrais rappeler que l'impact sur la santé, sur l'intégrité physique et psychique, passe par effectivement le psychotraumatisme. Et que le psychotraumatisme, c'est lié à des atteintes neurologiques. Il y a des atteintes neurologiques visibles dans le cerveau, avec des atteintes au niveau du cortex, des atteintes au niveau de circuits émotionnels et de la mémoire qui vont entraîner des troubles qui peuvent être le déterminant principal de la santé, même 50 ans après, si rien n'est fait. Ça peut aller jusqu'à 20 ans d'espérance de vie en moins. Alors, les mécanismes, c'est des mécanismes effectivement de sidération du psychisme et de mécanismes de sauvegarde exceptionnels qui vont entraîner dans un deuxième temps, la sidération ça paralyse, dans un deuxième temps, le cortex ne peut pas moduler le stress extrême et ça va entraîner une stratégie de survie qui en fait fait disjoncter le cerveau avec une dissociation, une anesthésie émotionnelle qui va déconnecter et la mise en place d'une mémoire traumatique qui, elle, va pouvoir coloniser la personne pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, toujours si rien n'est fait. Et c'est ce qu'on appelle les réminiscences, les flashbacks, mais aussi revivre ce qu'a dit l'agresseur, ce qu'il a fait. Et ça va effectivement transformer en fait la vie de la personne en possiblement une torture, comme si tout pouvait exploser à n'importe quel moment.
Ce que vous décrivez, Muriel Salmona, c'est ce qu'on appelle un psychotraumatisme.
Voilà, c'est un psychotraumatisme qui se définit vraiment autour de cette mémoire traumatique, avec plein de répercussions, et c'est les premières causes de risques suicidaires, de risques de dépression, de risques de conduite addictive pour pouvoir en fait anesthésier cette mémoire traumatique. On n'est pas alcoolique, on n'est pas toxicomane pour rien, on l'est parce qu'on a subi des violences dans l'enfance, particulièrement des violences sexuelles.
Isabelle Aubry, quelle est la principale spécificité du traumatisme lié à un viol incestueux vécu dans l'enfance?
Je dirais que l'inceste, avant tout, est un tabou. Un tabou, c'est ce qui est interdit de dire et ce qui est interdit de faire. Et la spécificité de l'inceste, c'est que l'enfant qui est victime d'inceste, la première chose qu'il perd, c'est sa famille. Donc c'est le terreau sur lequel il doit se construire et devenir un être humain. Et c'est ça que personne ne peut remplacer. Moi, je me dis souvent, j'aurais préféré être orpheline, au moins j'aurais pu me construire une famille idéale. Ce qu'il y a de pire dans l'inceste, c'est de devoir faire le deuil de ses parents idéaux, de sa famille idéale. Et ça, c'est le travail de reconstruction principal quand on a subi l'inceste.
Bonjour Karine.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission. Vous nous aviez contacté par courriel et nous sommes heureux de vous recevoir ce matin. Pouvez-vous nous raconter ce que vous avez vécu?
Oui. C'est une famille particulière avec un père incestueux, excusez-moi, une mère très violente et une construction en fait dans ce milieu-là. Avec, vous voyez, quand j'en parle encore, des réminiscences tout de même.
Bien sûr.
Pour autant, voilà, donc un père incestueux. Et ce qui a été le plus difficile, j'entends ce qu'a dit la dame là sur l'inceste.
Isabelle Aubry.
Oui, ce qui a été le plus difficile, c'est pas tant de passer outre cet inceste, ce tabou, c'était d'accepter que l'on puisse aimer quand même son parent incestueux. Parce qu'il y a une partie de soi qui sait que c'est pas normal, qui souffre, qui est dans le traumatisme, donc qui est dans la dépression. Enfin, nous on était trois, une de nos sœurs est morte, elle s'est suicidée, on a toutes les trois fait plusieurs tentatives de suicide. Et en fait, ce qui est le plus difficile après, c'est une fois qu'on s'est libéré, parce que moi j'ai fait un gros travail en sophro-analyse, c'est aussi d'accepter le deuil, bien sûr, de ces parents-là, mais surtout d'accepter que l'on n'est plus, qu'on n'est plus et qu'on aime ce parent-là, c'est-à-dire de retrouver finalement un lien d'amour, de se pardonner à soi-même. Il y a aussi ce point-là qui est important d'envisager aussi. Et pour autant, c'est important pour moi de témoigner parce que, même si je suis très émue, parce que ça retouche quand même des
bien
choses,
sûr.
C'est que vraiment on peut sortir du traumatisme en revivant. Enfin, moi, j'ai grâce à une méthode qui m'a vraiment aidée parce que j'ai été hospitalisée, internée plusieurs fois. J'arrivais pas à m'en sortir et par hasard, je suis tombée sur la sophro-analyse et cette méthode-là m'a permis de revivre ces moments-là, ces moments traumatiques, de libérer vraiment l'énergie qui était associée à ce moment-là. Et après, pas tout de suite, dans un autre temps, le temps du deuil et de la compréhension et de l'acceptation, de retrouver un lien d'amour avec ses parents toxiques. Ça ne veut pas dire que je les vois, mais ça veut dire que j'ai créé un autre lien que celui qui pouvait me nourrir réellement dans la vie.
Isabelle Aubry.
Oui, je dirais que par rapport au rétablissement, c'est à chacun son heure, à chacun son moment, à chacun sa méthode. Et ce qui est important, c'est de trouver le bon cadre au bon moment et peut-être différents cadres à différents moments de la vie. Et si vous avez trouvé celui-là, c'est formidable. Et il peut y avoir de l'art-thérapie, il peut y avoir des tas de choses pour s'en sortir, des groupes de parole. Il n'y a pas de recette miracle pour moi.
Muriel Salmona.
Oui, alors, il y a... tout ce que j'ai dit tout à l'heure, des atteintes neurologiques, des troubles psychotraumatiques, ça peut se traiter. Donc il y a une dimension, c'est de la médecine, il y a déjà une dimension médicale avec une prise en charge médicale absolument nécessaire, avec des impacts sur aussi cardiovasculaire, au niveau de l'immunité. Donc ça, c'est vraiment, il y a une nécessité d'être suivi. Et puis, il y a le fait que tant qu'on est en contact, ça c'est vraiment important, et c'est vraiment un problème inhérent aux situations de violences faites aux enfants qui sont faites plus de 90% des cas par des proches, c'est que les enfants subissent des traumas et à la fois restent exposés aux violences et restent exposés aux agresseurs. Et du coup, se met en place un mécanisme de survie qui est la dissociation, qui anesthésie totalement, qui va entraîner aussi beaucoup d'amnésie traumatique dans 40% des cas. Et puis, le fait d'être exposé continue à générer en fait cet état de dissociation et avec une mémoire traumatique qui s'installe mais qui ne peut pas être prise en charge, être traitée. Donc, c'est protéger les enfants des agresseurs et ne pas les laisser exposés. Parce que sinon, effectivement, ils peuvent sembler ne pas aller si mal parce qu'ils sont anesthésiés, mais en fait, ils sont en situation de très, très grand danger.
Cécile Guéret.
Oui, le témoignage de Karine est très émouvant et je trouve qu'il souligne des points vraiment essentiels. La première chose que je voudrais dire, c'est déjà saluer le courage des anciennes victimes qui continuent à vivre et à faire leur vie malgré, avec, contre tout ce qu'elles ont vécu. Parce qu'il faut savoir que le risque de tentative de suicide est 7 fois plus élevé chez les victimes de violences sexuelles, c'est énorme. Donc, parvenir à vivre, à survivre avec ça, c'est faut un courage immense. Et dire aussi que effectivement, on peut s'en sortir, on peut aller mieux, on peut vivre, on peut construire sa vie à condition d'avoir une prise en charge. Alors, elle parlait de la sophroanalyse. La question, c'est, pour moi, c'est pas tellement une question de méthode, c'est une question de rencontre. C'est-à-dire que il y a des outils qui sont intéressants, il y a des méthodes qui sont intéressantes, il y a l'importance d'avoir un psy qui soit formé au psychotraumatisme, mais c'est surtout une rencontre, c'est-à-dire un psy qui soit en empathie, qui soit bienveillant, qui sache aussi trouver la bonne distance et qui soit la bonne personne pour soi à ce moment-là.
Karine, vous avez le mot de la fin.
Pardon ?
Karine, vous avez le mot de la fin.
Oui, ben, c'est vrai que tout ce qui est dit est juste. Après, il faut réussir à vivre quand même avec le reste, même si j'ai construit ma vie, j'accompagne à mon tour des gens, donc je suis dans cette dynamique de vie. Pour autant, il y a des bouffées des fois qui viennent de très loin qu'il faut savoir accueillir et puis continuer.
Merci Karine de nous avoir appelé. Nous vous souhaitons beaucoup de courage pour la suite. Nous attendons vos témoignages 01 45 24 7000 ainsi que sur notre adresse grandbienvousfasse@radiofrance.com. Une émission préparée par Alexia Rivière et Lorraine Bess avec l'aide de Clara Marliot et c'est réalisé par Claire Destacan.
Je ne t'oublierai jamais, criais-je sur le départ. Et la nuit s'est levée, nous blessant au hasard. Pour me perdre un peu plus, pour nous perdre un peu plus. Les mirages éteignaient nos naissances sur la pierre que la soif. Et à mesure que la vie s'éloignait, ma voix perdait de sa force. Les dunes se déplaçaient, balayaient mes repères, laissant à découvert la route. Parsemée d'ossements, j'essayais doucement de contenir les vents. La route. Et l'orage s'avançait, nous faisant chevalier de ces légions fantômes. J'ai trop longtemps marché dans les pas d'un cyclone. Les mirages éteignaient nos naissances sur la pierre que la soif. Et à mesure que la vie s'éloignait, ma voix perdait de sa force. Les dunes se déplaçaient, balayaient mes repères. Prononcer des mots que je ne connaissais pas, jamais si proche de moi que ceux, les chemins de l'errance.
pas oublié. Tu vois, je ne t'ai pas oublié. Puis la route a enfin retrouvé l'éclat des heures premières, les ossements recouverts.
Radio Elvis, interprétez La Route.
France Inter. Grand bien vous fasse.
10h22, violence sexuelle sur mineurs, comment surmonter le traumatisme? Avec nous ce matin, pour répondre à cette question, la psychiatre Muriel Salmona, la journaliste et thérapeute Cécile Guéret et Isabelle Aubry, présidente de l'Association internationale des victimes de l'inceste. Bonjour Clarisse.
Bonjour.
Bienvenue dans Grand bien vous fasse. Vous avez été abusée à l'âge de 12 ans, c'est ça?
Oui, dans le cadre familial, et ainsi que mon frère aîné. Donc, vers 20 ans, j'ai voulu en parler, mais mon frère, qui avait sûrement trop honte, a refusé. Par correction, j'ai enfoui ça en moi. J'ai essayé d'avoir une vie normale, mais il y avait beaucoup de souffrance. Et vers l'âge de 35 ans, tout a rejailli à la suite de harcèlement au niveau du travail. Le harcèlement me renvoyait à ce que j'avais subi enfant, c'est-à-dire tais-toi et laisse-toi faire. Et pour moi, c'est devenu comme un instinct de survie. Il fallait que je règle ce problème-là, parce que sinon j'allais y laisser ma peau. Et donc j'ai trouvé une association spécialisée à 80 km de chez moi, une association spécialisée qui aidait les adultes qui avaient été victimes d'abus sexuels dans l'enfance. Je les ai vus régulièrement pendant un an. On a décortiqué tout doucement, à mon rythme, comment les abus avaient pu se mettre en place, avec la notion d'affectif. Parce qu'un abuseur, surtout dans le cadre de la famille, c'est pas, il vous viole pas comme ça un soir par violence. Il met en place un terrain pour préparer le passage à l'acte. Et le terrain se fait par l'affectif. Et ça, ça perturbe énormément un enfant. Donc on a décortiqué le rôle de chacun, comment tout ça avait pu se mettre en place. J'ai pu en reparler à mes parents, voir leur réaction de déni, d'envoi des responsabilités sur moi. C'était moi qui étais demandeuse de sexe de la part de mon père. Ma mère a dit que c'était rien ce qui s'était passé, elle avait vécu pire. Ce qui arrive souvent, ce qu'on retrouve souvent dans les schémas d'inceste familiaux. Il y a souvent une répétition de génération en génération. Donc j'ai pu, moi, me détacher de ça, de ma responsabilité, de ma colère. Et depuis, je vis nettement mieux.
Qu'est-ce qui vous a aidé à vous reconstruire, Clarisse?
De comprendre comment ces choses avaient pu arriver et que je n'aurais de toute façon, avec mes moyens d'enfant de 12 ans, je n'aurais pas pu faire qu'elles n'arrivent pas. Je n'étais pas responsable. C'était eux les adultes, c'était eux les manipulateurs, c'était eux qui connaissaient les lois. Et donc si je m'étais laissé faire, c'était pas de ma responsabilité. Je n'avais pas d'autre possibilité à l'époque.
Muriel Salmona.
Oui, là, ce témoignage est vraiment important parce que c'est vraiment le principe justement de l'emprise, hein, des agresseurs sur les enfants qui imposent leur stratégie et qui culpabilisent l'enfant, lui font honte, lui font croire qu'il aime ce qui est en train de lui arriver, lui font croire qu'ils sont obligés de subir. Et le démontage de la stratégie du système est vraiment essentiel pour justement échapper à cette culpabilisation. La culpabilité, elle ne vient pas de la victime, elle vient du discours de l'agresseur et de ses complices. Et donc ça, c'est vraiment très très important. Et ça passe aussi par la mémoire traumatique où c'est de ta faute, tu l'as bien voulu, tu aimes ça, tu m'aimes. Voilà.
C'est quoi cette mémoire traumatique? Vous évoquez cette mémoire traumatique, vous la comparez à une bombe émotionnelle, à une mine antipersonnel.
En fait, au moment où le cerveau disjoncte, parce qu'il y a un effet stress extrême pour empêcher en fait la personne quasiment de mourir de stress et d'avoir des atteintes neurologiques trop importantes, le système de la mémoire disjoncte aussi, et la mémoire de l'événement ne va pas être intégrée par le cerveau en mémoire autobiographique. Elle reste piégée dans une petite structure du cerveau et hypersensible, et elle va faire revivre à l'identique comme une machine à remonter le temps, plein de moments, plein de sensations, d'émotions, elle va réentendre aussi les paroles de l'agresseur, elle va revoir, avoir les mêmes douleurs, et c'est cette mémoire traumatique qui vraiment va torturer la victime, et la torture aussi psychologiquement, émotionnellement, mais aussi psychologiquement, parce qu'elle réentend les phrases de l'agresseur. Tu le voulais bien, c'est de ta faute, tu ne mérites que ça, t'as aucune valeur, etc.
Donc si je vous comprends bien, Muriel Salmona, avant de s'en sortir, de se reconstruire, il est nécessaire de désengorger cette mémoire traumatique.
Oui, alors,
c'est fondamental.
C'est fondamental, il faut désamorcer cette mémoire traumatique, il faut l'identifier, il faut comprendre, il faut faire des liens, il faut mettre en perspective, il faut savoir que ce qui envahit la personne, parce que la personne peut penser être folle, parce qu'elle réentend des choses, elle ressent des choses, c'est un peu comme une hallucination. Et puis, il y a aussi le mépris de l'agresseur qui l'envahit, donc elle peut penser se mépriser, mais il y a aussi l'excitation de l'agresseur, elle peut avoir l'impression qu'elle est excitée par des situations de violence, alors que c'est l'excitation de l'agresseur. Donc il faut vraiment identifier et décoloniser la victime par rapport à cette mémoire traumatique. Mais pour ça, il faut la protéger et désamorcer ensuite les choses.
Cécile Guéret.
Oui.
Sur le témoignage de Clarisse.
Oui, sur le témoignage de Clarisse, il y a effectivement bien sûr répéter, et ça c'est aussi un travail thérapeutique, hein, c'est aussi un chemin. L'adulte seul est responsable, même si l'enfant demandait de l'affection, même si l'adulte lui a dit dans son emprise perverse que c'était lui qui était coupable. Même si l'enfant n'a pas dénoncé, c'est l'adulte qui est responsable. Et ça, c'est un chemin, c'est beaucoup de temps. Ce qu'il faut que les... Aussi, ce que vraiment je voudrais... Ce qui me semble important à dire, c'est que... Évidemment, ça peut faire peur de faire une thérapie. Quand on a vécu ça, quand on revit ces moments de terreur, quand on est colonisé par ces peurs, par ces souvenirs qui reviennent, c'est terrorisant de se dire « je vais aller voir un psy et je vais reparler de ça ». Évidemment, ça fait peur. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que au moins c'est le moment où on n'est plus seul, où on peut parler à quelqu'un, on peut être écouté dans un cadre qui est sécurisé, qui est sécurisant. Ça prend du temps, mais ça, on peut vraiment aller mieux. Et il y a des réparations,
neurologiques, oui, c'est ce qu'on peut voir, et effectivement qui reviennent à l'identique.
Il y a une amélioration importante, quoi, vraiment.
Isabelle Aubry, Clarisse parlait d'un travail associatif qui a été important dans sa reconstruction. Quelle aide vous apportez-vous concrètement au sein de votre association, l'Association internationale des victimes de l'inceste, pour reconstruire, essayer d'aider les victimes à se reconstruire?
On met en place des outils d'entraide, surtout. Hein. Nous sommes une association de victimes, donc il n'y a pas de professionnels dans notre association. Par contre, on considère qu'en tant que survivant de l'inceste, on a une expertise du sujet, et donc on a des outils d'entraide comme un forum, un chat, des groupes de parole thématiques qui ont lieu tous les mois dans plusieurs grandes villes de France. Et grâce à l'identification, on s'écoute les uns les autres et on parle sur des sujets et sur nos parcours de rétablissement. Ces échanges aident à avancer. Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que quand on a 12 ans et qu'on nous parle jamais de l'inceste et que il n'y a pas de dépistage fait chez le médecin et qu'on ne pose pas de questions systématiques, où doit-on s'adresser? C'est très difficile quand on est enfant de savoir où demander de l'aide. Donc pour moi, le message important, c'est de dire aux professionnels, posez systématiquement des questions. Quand un enfant va pas bien, quand il a mal au ventre, alors que c'est inexpliqué, parce que l'enfant, il parle avec son corps. À 12 ans, Clarisse, elle devait parler.
Clarisse?
Oui. La première fois adulte que j'ai pu évoquer les abus sexuels, c'est un sophrologue qui me suivait pour des problèmes de migraine, qui m'a posé la question directement, et attendant juste un oui ou non. Ouais. Et c'est la première fois que j'ai pu en reparler. Et là, j'ai réalisé qu'effectivement, mes migraines, les mal de dos, certaines choses, c'est le corps qui exprime justement cette mémoire traumatique. Je voulais dire que là j'ai 48 ans, je vais nettement mieux, mais les abus ressortent par période. Par exemple, j'ai eu un cancer. Bon, bien, je sens quand même que la fragilité de cet enfant qui n'a pas su se défendre, c'est ressorti tout ça au moment de cancer. Ça peut ressortir au moment de difficultés au niveau du travail, comme je vous dis, les problèmes d'harcèlement. Et qu'il faut vraiment ne pas hésiter à revoir un thérapeute, à reparler de ça, à redécortiquer, savoir qu'est-ce que mes émotions actuelles peuvent être, avoir comme lien avec ce que j'ai vécu. Parce que c'est que comme ça qu'on peut arriver à avoir une vie sereine.
Muriel Salmona.
Oui, oui, c'est vraiment ce qu'on explique d'ailleurs, c'est que c'est un processus, la guérison, avec tout un travail, avec des paliers, des moments où ça peut aller plus mal, mais en fait c'est pas un retour en arrière, c'est simplement qu'on rencontre qu'il y a quelque chose qui de nouveau explose. Et pour revenir aussi avec cette mémoire traumatique, si en fait on n'explique pas aux personnes ce que c'est, si on ne les accompagne pas, si on ne cherche pas à savoir, si on pose pas de questions, ça aussi on travaille énormément pour que tous les professionnels de la santé posent systématiquement des questions. Les personnes vont devoir survivre avec cette mémoire traumatique. Et pour ça, il n'y a que deux façons de survivre, en quelque sorte. Soit les conduites d'évitement, je ne bouge plus, parce que tout ce qui peut me rappeler, par exemple, quelque chose de collant qui peut rappeler le sperme ou la sueur. Et puis, d'un seul coup, la personne a fait une attaque de panique. Si elle a été enfermée, elle peut faire une attaque de panique dans un ascenseur. Donc, c'est vraiment... les gens peuvent être dans la conduite d'évitement, où ils essaient de ne plus du tout bouger, ou alors dans ce qu'on appelle les conduites dissociantes, c'est-à-dire que cette mémoire traumatique est tellement atroce, c'est tellement insupportable, qu'ils vont mettre en place des stratégies pour ne plus ressentir cette mémoire traumatique, pour être dissociés, et c'est comme ça que 50% des victimes vont avoir des conduites addictives, alcool, drogue, ou des conduites à risque, parce que les conduites à risque, ça fait de nouveau disjoncter le cerveau, et de nouveau, ça entraîne une anesthésie émotionnelle qui a eu lieu au départ. Et donc, d'où l'importance de aussi poser des questions aux personnes qui ont des conduites addictives. C'est-à-dire que 90% des personnes qui sont toxicomanes, qui sont alcooliques, ont subi des violences extrêmes dans l'enfance, des violences sexuelles particulièrement. Donc c'est de poser des questions aux personnes qui font des suicides, qui font des tentatives de suicide. 50% des victimes de violences sexuelles font des tentatives de suicide. Les troubles de l'alimentation, l'obésité, il y a énormément de symptômes, bien sûr la dépression, et puis aussi les troubles cardiovasculaires, enfin je veux dire les troubles de l'immunité, les douleurs chroniques. On l'a vu là avec les céphalées chroniques, les migraines, la fibromyalgie, il faut poser des questions, il faut savoir ce qui s'est passé. C'est vraiment essentiel.
Merci beaucoup Clarisse de nous avoir appelé. Vous pouvez continuer à témoigner au 01 45 24 7000. Et nous attendons également vos témoignages à l'adresse grandbienvousfasse@radiofrance.com.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rébéi.
Les Cranberries à 10h39 sur France Inter.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Violence sexuelle sur mineurs, comment surmonter le traumatisme? Avec nous ce matin pour répondre à cette question, la psychiatre Muriel Salmona, également présidente de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie, la journaliste à Psychologie Magazine et thérapeute Cécile Guéret, et avec Isabelle Aubry, présidente de l'Association internationale des victimes de l'inceste.
On est tous quelque part responsables quand il y a une violence qui est faite à un enfant. Parce que plus tôt on aide, plus tôt on assiste, plus on donne de chance à cet enfant de pouvoir se construire, quoi. Et ça, c'est essentiel. Mais ça tient à peu de choses. Ça tient à juste prendre la main d'un enfant et dire, voilà, je m'inquiète, il y a quelque chose qui n'est pas normal, j'ai un doute. Enfant en danger, dans le doute, agissez.
Extrait de la toute dernière campagne contre les violences faites aux enfants du ministère des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes avec la voix de l'animatrice Flavie Flamand. Question très simple, Muriel Salmona, d'un médecin généraliste. Je souhaiterais savoir s'il existe des moyens de détecter les sévices, les violences sexuelles chez un enfant.
Alors oui, alors qu'il y a déjà un moyen très simple, c'est de poser systématiquement la question. Ça a été étudié, donc de poser régulièrement la question pour savoir, puisque les enfants sont très touchés par la violence sexuelle. Là, c'est une fille sur 5, un garçon sur 13. Et puis il y a aussi de s'alerter sur des signes de souffrance, de malaise, troubles de l'alimentation, troubles du sommeil, des conduites à risque, justement on a parlé, mais aussi un enfant qui se déprime, qui est très anxieux, qui a des phobies, qui a des troubles obsessionnels, c'est aussi un enfant qui a des conduites sexuelles inappropriées. Parce que je veux dire, la mémoire traumatique, quand elle l'envahit, il rejoue la scène. Il peut la rejouer aussi sur d'autres enfants, avec d'autres enfants, ou sur des poupées. Donc tout ça, il faut être vraiment très attentif. Et nous, bon, on a mis, par exemple, sur le site, en place des fiches pour justement savoir comment poser la question, comment accompagner un enfant, comment rechercher s'il a subi quelque chose. Mais c'est essentiel déjà d'avoir en tête que c'est fréquent. Et que c'est un vrai problème de santé publique et que les médecins sont en première ligne pour signaler théoriquement. Or, ils sont responsables seulement que de 5% des signalements. Ça devrait être beaucoup plus. Donc, il faut qu'ils puissent signaler au 119. Donc, et en cas de doute, justement, c'est par rapport à la campagne, il faut vraiment facilement appeler le 119 pour essayer d'échanger, pour savoir.
Le 119, c'est ?
Le 119, c'est le numéro national de l'enfance maltraitée, l'enfance en danger. Et du coup, on peut avoir accès comme ça à des personnes. Et si on a une situation où un enfant parle, là, il faut passer par le procureur de la République.
Et votre site, c'est mémoiretraumatique.org. Cécile Guéret.
Oui, ce qui est très important aussi à savoir, c'est que signaler, c'est pas dénoncer. Signaler, c'est dire, il y a quelque chose peut-être qui peut être préoccupant. Après, c'est la police, la justice, les médecins qui font leur travail. Signaler, c'est juste dire, il y a peut-être quelque chose. Donc, faut pas hésiter à signaler. Je veux dire, on est tous responsables, effectivement, des violences qui peuvent se passer autour de nous et qu'on n'ose pas signaler parce que on a peur de faire une bêtise, on a peur de mettre la famille en danger. Mais avant tout, faut protéger les enfants. Et pour protéger les enfants, faut signaler.
Isabelle Aubry.
J'ai envie d'ajouter qu'un enfant qui subit des violences sexuelles, quand il parle, il attend qu'une chose, c'est que ça s'arrête. Voilà, ça il faut en avoir conscience. Donc quand il parle, il met sa vie en jeu. Parce que si ça s'arrête pas, il se retrouve face à l'agresseur. Et donc, il faut savoir que pour parler, il a son langage à lui, ses mots à lui, M-A-U-X. On peut pas. Ce qui va être déterminant pour le professionnel ou l'entourage, c'est de repérer un enfant qui change complètement. Ça arrive brusquement en fait, qui va d'un seul coup avoir différents, soit des comportements différents, soit des maladies, des troubles gastro-intestinaux par exemple, inexpliqués. Ça y a une étude qui prouve que quand il y a des violences sexuelles, il y a souvent des troubles gastro-intestinaux inexpliqués. Et donc, faut repérer ce changement brutal. Voilà. Et bien sûr, questionner. Et il faut pas avoir peur de questionner. Et je voudrais, pour le médecin, lui dire que la Haute Autorité de Santé a fait un travail pour indiquer au médecin comment questionner et comment examiner aussi les enfants qui parlent. Parce qu'il faut pas s'y prendre n'importe comment.
Muriel Salmona, j'aimerais qu'on évoque la prise en charge thérapeutique des violences sexuelles sur mineurs. Alors, d'un point de vue pratique, c'est une prise en charge totale par la sécurité sociale, c'est ça ?
Oui, alors il y a un article de loi du code de la sécurité sociale qui effectivement permet une prise en charge à 100%. Donc ça va être beaucoup plus diffusé grâce au premier plan parce que c'était ça existe depuis longtemps mais c'était méconnu. Donc il y a un accès à des soins gratuits, pas uniquement les soins psy mais aussi psychiatriques, mais aussi les soins pour tout ce qui est impact sur la santé à tout niveau. Et le problème actuel, et c'est là où vraiment on espère beaucoup avec ce plan, c'est qu'il faut une formation très importante des médecins. Enfin, la prise en charge, elle est holistique. C'est vraiment sur l'ensemble de la santé de l'enfant. Il faut une et sur aussi sa scolarité. Il faut que vraiment beaucoup de gens s'impliquent. Et il faut des centres aussi de soins identifiables et des professionnels formés. Les médecins actuellement ne sont pas formés pendant leurs études médicales à prendre en charge la psychotraumatologie. Donc il faut que ça change. Et on espère que ça va bouger là.
Cécile Guéret, quels sont les fondements de la prise en charge thérapeutique spécialisée?
Alors les fondements déjà c'est un peu pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, c'est d'abord une rencontre avec un thérapeute qui a été formé au psychotraumatisme, donc qui connaît tout le principe du trauma, c'est-à-dire la dissociation, la sidération, parce que par exemple il y a quelque chose de très fort face à une personne qui a été victime de violences sexuelles, c'est que elle-même elle est anesthésiée, c'est-à-dire que quand elle va raconter son histoire, elle va la raconter comme si c'est arrivé à quelqu'un d'autre ou comme si c'était dans un film, c'est-à-dire qu'il y aura pas de d'émotions liées. Mais ça, c'est lié au processus de sidération et de dissociation. Donc, il faut que le psy en face, il comprenne bien que si son processus empathique à lui est en panne, c'est-à-dire que s'il ne ressent rien ou s'il ressent en tout cas du flou, quelque chose qu'il n'arrive pas à saisir, c'est une preuve du psychotraumatisme. Ça, c'est des choses, c'est très concret en fait, mais juste, faut que les psys soient formés et le sachent.
Muriel Salmona, plus la prise en charge spécialisée précoce, plus elle est évidemment efficace.
Ah oui, plus elle est efficace, du coup, on peut vraiment traiter cette mémoire traumatique et du coup, les atteintes neurologiques qui peuvent sinon être importantes et qui sont bien maintenant déterminées. Et puis, ça évite aussi à l'enfant de rester exposé aux violences, de subir violences jour après jour. Et il faut savoir aussi que si un enfant n'est pas pris en charge, il a un risque très important de subir des violences tout au long de sa vie. C'est-à-dire que cette dissociation, cette anesthésie émotionnelle l'empêche de pouvoir réagir à des situations de violence. Il va être ciblé par des prédateurs et on retrouve comme ça quelqu'un qui va en fait être tout le temps en danger. Donc protéger l'enfant est essentiel et la prise en charge, plus elle est précoce, plus elle va permettre aux enfants d'être protégés.
Et puis le thérapeute doit délivrer des outils à la victime pour qu'elle puisse comprendre ses émotions, ses sensations,
alors,
ses réactions.
Ça, on le sait. Il y a eu même des grandes études internationales qui montrent que c'est presque 25% de la prise en charge, c'est d'expliquer à la victime ce qu'elle a ressenti, pourquoi. Parce qu'il y a sinon, il y a une culpabilité où la personne peut vraiment penser avoir des troubles psychiatriques lourds, être folle. Enfin, il y a des enfants qui ont été victimes de violences sexuelles qui vont être étiquetés autistes, qui vont être étiquetés psychotiques, alors que pas du tout. Ils sont simplement des troubles psychotraumatiques.
Isabelle Aubry, comment vous avez été prise en charge d'un point de vue thérapeutique et médical?
Alors la prise en charge, c'est pas une prise en charge, hein, comme on le disait tout à l'heure, c'est tout un processus, c'est un chemin. Moi, je parle de chemin.
C'est un chemin.
Un chemin vers le rétablissement, avec des rencontres, comme le disait Cécile, avec des personnes plus ou moins formées, ou pas formées, mais avec une empathie et une humanité qui vont aider. Et puis une forte rencontre aussi très importante avec d'autres survivants. Je dois dire que personnellement, j'ai rencontré en 3D, comme en réalité, des survivants à l'âge de 35 ans, et que ça a été une vraie révélation pour moi, parce que quand je les ai entendus dire, ben moi, je ressens ça, moi, je me suis droguée, moi, je me suis prostituée, alors là, vous dites, ben finalement, effectivement, je suis pas folle, c'est normal. C'est normal de vivre tout ça
et de traverser
ses souffrances, parce que sinon on se les attribue, on se sent responsable,
coupable. Donc,
voire même coupable, effectivement, oui. bien que la justice soit passée par là, ça change rien, hein. Du coup, moi j'ai voulu mettre à disposition cette possibilité aux survivants de se rencontrer et de parler entre eux. Et en créant le site aivi.org et ces outils, c'était en 2000. Hein, c'était moi quand j'ai tapé inceste en 2000 sur Yahoo, il ne sortait que des sites porno. Donc il faut bien se rendre compte du chemin parcouru depuis 17 ans.
Bonjour Nathalie.
Oui, bonjour.
Bienvenue dans l'émission.
Voilà. Merci beaucoup. Moi, je voulais témoigner. En fait, c'était pas dans le cadre de l'inceste. J'ai été victime d'un viol. J'avais 16 ans. J'ai été très mal prise en charge après, notamment par la gendarmerie et puis par un thérapeute pas adapté.
Il y a une trentaine d'années, hein, c'est ça ?
Voilà, c'est ça, il y a une trentaine d'années. Et j'ai fait deux refus post-traumatiques, une première à 22 ans. J'ai vu une thérapeute, mais j'ai dû déménager, donc j'ai pas pu finir. Et j'ai refait une rechute post-traumatique il y a 5 ans. Très sévère, avec les mêmes angoisses, les mêmes terreurs. Et j'étais suivie à ce moment-là pour une dépression par une thérapeute qui faisait de l'EMDR.
Qu'est-ce que c'est l'EMDR ?
Alors l'EMDR, c'est une thérapie de rééducation par mouvement oculaire.
D'accord.
Qui a été créée par M. Servan Schreiber, entre autres. Et
Cécile Guérin, précision sur le MDR.
C'est une technique américaine qui a été inventée aux États-Unis et qui a été
Francine Shapiro.
Voilà, exactement, et importée, enfin connue plus en France,
popularisée par David Servan-Schreiber.
Exactement. C'est juste une précision. C'est un protocole, le MDR, donc ça peut être très intéressant dans le cadre du trauma, mais il faut avoir une psychothérapie de fond qui va avec ça, parce que j'ai aussi reçu beaucoup de témoignages de victimes qui avait fait de l'EMDR et pour qui ça peut être très violent, voire très intrusif, voire même retraumatisant parfois, s'il n'y a pas un accompagnement psychothérapeutique plus large, de fond, sur la longueur.
En tout cas, Nathalie, ces séances d'EMDR vous ont aidé à vous reconstruire ?
En tout cas,
ça fait partie du chemin, en tout cas.
Voilà, ça fait partie du chemin. Disons que les informations sont classées au lieu d'être remises sous le tapis.
Mais avec un accompagnement psy, c'est
voilà.
Formidable.
Muriel Salmona.
Tout à fait, mais par contre, je continue à avoir un thérapeute depuis 3 ans, régulièrement, pour continuer le travail.
Oui, je voulais rebondir aussi. Alors, l'importance de la formation des professionnels, et puis aussi l'importance aussi de la formation des psychiatres, parce que le plus souvent, ils vont étiqueter sur le plan psychiatrique les patients, et pas du tout sur le plan psychotraumatologique, et vont leur donner des médicaments qui vont plutôt les dissocier, les anesthésier, donc qui va diminuer la douleur, mais pas du tout traiter la cause. Et que ça, c'est vraiment essentiel aussi d'avoir affaire à des gens formés.
Merci beaucoup, Nathalie, de nous avoir appelés. Bonjour Sébastien Lopez.
Oui, bonjour.
Vous êtes le père de l'une des victimes de Romain Farina, directeur de l'école primaire de Villefontaine dans l'Isère.
Oui.
Je rappelle rapidement les faits. Romain Farina, mis en examen pour des viols commis sur des élèves lors d'ateliers du goût organisés dans sa classe. Le directeur d'école s'est suicidé il y a un an après la découverte de son ordinateur par la police. Nos confrères de RTL révèlent que les enquêteurs ont mis au jour plus de 500 000 photos et 11 000 vidéos à caractère pédophile. Des fichiers qui révèlent des dizaines de jeunes victimes encore non identifiées, probablement abusées, violenté par le directeur d'école. Sébastien Lopez, comment vous militez pour qu'on retrouve et qu'on absolument ces victimes ?
Bien sûr.
Pour qu'on puisse les accompagner dans un chemin thérapeutique.
Essentiel. Ouais. C'est essentiel. Il faut les retrouver, les accompagner. Il faut leur offrir dans l'avenir la chance de pouvoir être suivis convenablement et même dès maintenant, puisque ça se joue à l'enfance. Hein.
Ouais. C'est une question, je dirais entre guillemets, de vie ou de mort.
Oui.
C'est exactement ça. La vie ou la mort psychologique de la personne.
Exactement. Mais comment votre petite fille a-t-elle été prise en charge après les violences sexuelles qu'elle a subies ?
Bah écoutez, nous, elle est suivie par un psychologue spécialisé dans la mémoire traumatique également sur Lyon. Et on a mis en place avec mon association des groupes d'art-thérapie. Et je pense que c'est une thérapie alternative qui me paraît assez intéressante du fait que les enfants ne sont pas obligés de mettre des mots sur leurs mots, mais peuvent mettre de la peinture, des images, des dessins, autrement, s'exprimer autrement que par des mots.
Oui, ça,
avec les enfants, on utilise beaucoup des médiations, effectivement, par le jeu, par l'art, par l'expression. Mais c'est absolument essentiel de retrouver tous ces enfants. C'est essentiel.
Et quel est le rôle des proches, de la famille, pour accompagner ces victimes ?
Alors, déjà de prendre en compte la gravité de ce qui s'est passé, de s'informer, d'accompagner au mieux, d'être souvent. Enfin, nous, c'est très important aussi de suivre les familles, tous les proches protecteurs. On les prend en charge aussi pour qu'ils puissent vraiment mieux comprendre la victime, mieux l'accompagner, mieux aussi à s'alerter s'il y a quoi que ce soit. Et puis vraiment, c'est pour ça que tous ces outils-là doivent être absolument diffusés. Ces informations-là, c'est absolument essentiel. Il faut qu'il y ait des centres de soins aussi accessibles, gratuits, sur tout le territoire. C'est ce qu'on a demandé, ce qu'on devrait obtenir.
Sébastien Lopez, vous avez le mot de la fin.
Bah écoutez, moi je rejoins les personnes qui sont avec vous aujourd'hui, vous invitez. Il faut que des centres de résilience soient mis en place à titre gratuit pour les victimes, et quelle qu'en soit la durée, quel qu'en soit il ne faut pas oublier également la prise en charge des familles, de l'entourage, qui malgré que ce soit leur enfant qui ait été touché, sont aussi des victimes collatérales et qui souffrent de stress post-traumatique majeur comme moi aujourd'hui. Et il faut accompagner toutes ces personnes-là, il faut leur offrir la chance, et cette chance-là ne se moyenne pas avec des finances.
Merci beaucoup Sébastien Lopez d'être intervenu dans l'émission. Merci beaucoup Muriel Salmona d'être venu. Le livre noir des violences sexuelles est disponible chez Dunod. Je rappelle le site mémoiretraumatique.org. Merci Isabelle Aubry, co-auteur de L'inceste, 36 questions-réponses incontournables. Votre association, c'est l'Association internationale des victimes de l'inceste. Merci Cécile Guéret, journaliste à Psychologie Magazine.
Merci, et je vous invite à aller voir le site incesteviolprotégeonslesenfants.psychologie.com sur lequel il y a plein de ressources.
Merci à tous, et il est temps tout de suite de retrouver la chronique de Julia Foyce. Il était une fois dans le web.
Les engrenages continuent de tourner.
Il était une fois.
Ça ne s'arrête jamais.
Dans le web.
Bonjour Julia Foyce.
Bonjour Ali, bonjour tout le monde.
Bien souvent, le viol est commis par des très proches, des proches que l'on peut nommer « amis » entre guillemets sur les réseaux sociaux. C'est l'histoire que vous nous racontez ce matin et nous amène à Melbourne, en Australie.
C'est l'histoire d'une mère qui écrit, l'histoire de Cassidy, sa fille. Elle écrit sur Facebook, elle écrit des photos, elle poste aussi. On y voit Cassidy, adolescente, qui sourit. Elle est jolie, Cassidy, longs cheveux bruns, soyeux, surtout de très très grands yeux bleus, des joues roses, une peau de lait et puis trois lettres R.I.P. Rest in peace, Cassidy, repose en paix, ma chérie. Car la mère qui écrit est orpheline de fille. Oh oui, je sais, la formule est bancale. Pas de mots pour nommer ce mal. Pourtant, la mère les a trouvés, ces mots, un soir de janvier. Pour dire sa peine, la coupe est pleine. Alors les mots ont débordé pour raconter ce qu'il s'est passé, raconter cette vie amputée. D'abord, les 13 premières années d'une tranquille banalité et le moment où ça a glissé comme ça dans la cour de récré. La mère écrit qu'elle la voyait rentrer chaque soir à la maison, avec chaque soir le dos plus rond, Cassidy à l'échine courbée. Cassidy garde les dents serrées, c'est un cri qu'elle veut étouffer. Seulement voilà, Cassidy craque et elle raconte les attaques. Au collège, on la moque et parfois on la tape. Une bande de filles l'a prise pour cible, alors arrive l'impossible. On la suit jusque devant chez elle, lui hurle dessus, on la harcèle. On macule même sa maison de peau de banane, de vieux quignons. Sur les réseaux, on se passe le mot, mais Cassidy fait le gros dos. On l'insulte, on la traite de pute. Au début, la jeune fille occulte, et puis un jour, elle capitule. La meute hurle au crépuscule. Cassidy déclare forfait le collège, elle cesse d'y aller. 6 mois se passent, elle veut faire face. Cassidy reprend le chemin de l'école, ça lui fait du bien. La bande de filles vient s'excuser. Cassidy en est soulagée. Cette fois, oui, elle aura la paix. Et même de nouvelles amies, puisqu'un jour ses anciennes ennemies insistent pour qu'elle vienne avec elle dans une fête. Viens, ce sera mortel. On est au mois de février. Cassidy part le cœur léger. Dans cette soirée où l'attendaient les filles qui l'avaient harcelée. Avec elle, il y a 3 garçons. Vite, on fait les présentations. Et alors, sans plus de façon, on gagne l'arrière de la maison. T'inquiète, on va bien rigoler. Arrête de faire ta timorée. Cassidy se laisse entraîner. La porte claque, verrou fermé. Les autres filles à l'extérieur, les 3 garçons à l'intérieur. C'est là que Cassidy prend peur. Il est trop tard, elle est toute seule. Et les garçons se foutent de sa gueule. Déshabille-toi et viens par là. Non, ne bouge pas, avoue, t'aimes ça. Ils sont à 3 qui la violent, 3 qui rigolent. Et les filles qui l'avaient piégée, il n'y a plus personne, tiens, on dirait. Cassidy ramasse ses affaires, Cassidy doit retourner chez elle. Ce faisant, elle laisse derrière tout ce qui fait qu'elle était elle. La mère écrit qu'elle voit rentrer quelqu'un qui ressemble à sa fille, à ceci près qu'elle est brisée, à ceci près qu'elle vacille. Aussitôt, elle la fait parler, aussitôt, elle veut l'emmener chez les flics pour y déposer une plainte pour la protéger. Cassidy ne veut pas y aller, pas plus qu'elle ne veut parler à son proviseur. Elle a peur, forcément, ils l'ont menacée de la retrouver, de se venger. Donc Cassidy préfère se taire. J'ai vu ma fille se faner, écrit la mère désespérée. La blessure est une fêlure. Ça ne se voit pas sur la figure, mais c'est dedans que ça se fissure. Pendant 2 ans, doucement, sûrement, Cassidy chute lentement. D'abord les cauchemars qui réveillent, et puis on perd le sommeil. Bien vite, c'est l'angoisse qui tenaille, qui étreint, qui creuse la faille. Cassidy change d'école 2 fois, mais chaque fois ils l'ont retrouvé. La bande qui l'a harcelé, et ça n'a fait que recommencer. Sur les réseaux, au téléphone, Cassidy se fait insulter. Et pour le viol, tout le monde sait, mais c'est elle qui l'a bien cherché. Alors un jour, elle n'en peut plus, et elle décide de s'en aller, se foutre en l'air pour oublier, se foutre en l'air pour respirer. À ceux qui ont violé sa fille, la mère écrit « Vous l'avez tuée, vous ne pourrez jamais oublier ». À tous ceux qui lisent, elle écrit « Partagez, faites, circulez, car on sait bien, dans ces affaires, comme le silence est mortifère, comme il protège l'agresseur, comme il dédouane le violeur. C'est pour ça que la mère écrit l'histoire de sa fille, Cassidy. Pour ça qu'il fallait partager cette histoire et ce RIP.
Merci Julia Foyce. Il était une fois dans le web, c'est tous les mercredis, dans Grand Bien Vous Fasse. À suivre, Nagui et sa bande originale.